Chapitre 11e sur Sherlock Holmes. Peut-être l'impression que Holmes est un individu de chair et d'os aura-t-elle été fortifiée dans le public par sa fréquente apparition sur les planches. Quand j'ai retiré ma pièce Rodney Stone d'un théâtre que j'avais pris à bail pour 6 mois, je formais un dessein audacieux, car c'est la ruine qu'un théâtre réduit au chômage. Je m'enfermais chez moi pour me consacrer tout entier à un drame sensationnel sur Sherlock Holmes. Je l'écrivis en une semaine et l'appelais « La bande mouchetée », du titre de la nouvelle qui m'en avait fourni la matière. Je ne crois pas exagérer en disant que, 15 jours après l'arrêt de ma première pièce, j'en faisais répéter une deuxième, écrite dans l'intervalle. Le succès fut cette fois énorme. Lynn Harding composa avec une autorité puissante le personnage formidable et semi-épileptique du docteur Grimsby Rylott. Sainsbury, de son côté, fut très bon en Sherlock Holmes. Et je disposais d'une œuvre qui devait garder une valeur permanente. Elle passa effectivement au répertoire et on continue de la jouer en tournée. Nous avions pour le rôle qui justifiait le titre de la pièce un magnifique boa couleur de rocher qui faisait mon orgueil. Et l'on conçoit le dégoût que me causa l'article dénigrant de ce critique dont la conclusion était, en propres termes, que la péripétie était produite par un serpent visiblement mécanique. Je ne sais ce qui me tint de lui offrir une bonne somme s'il acceptait de le prendre dans son lit. Nous changeâmes plusieurs fois de serpent au cours des représentations, mais aucun n'était comédien de naissance. Tous avaient un penchant, soit à se laisser retomber du trou le long de la muraille, comme d'inertes cordeaux de sonnette, soit à rentrer derrière la toile ou même à se retourner contre le machiniste qui leur pinçait la queue pour leur apprendre à vivre. Nous finîmes par user de serpents artificiels, ce qui eut l'agrément de tout le monde, y compris le machiniste. Cette pièce sur Sherlock Holmes était la seconde, et j'aurais dû parler d'abord de la première, écrite bien des années auparavant, à l'époque de la guerre sud-africaine. Celle-ci avait pour auteur William Gellett, le grand comédien d'Amérique qui la joua merveilleusement. Il va de soi, qu'empruntant mes personnages et dans quelque mesure mes idées, Gellett m'intéressait à l'entreprise, qui fut très heureuse. « Puis-je marier Holmes ?» me câbla-t-il un jour, étant dans les affres de la composition. « Vous pouvez le marier, le tuer, en faire ce qu'il vous plaira, » lui répondis-je cordialement. Je fus charmé tout à la fois de la pièce, de son interprétation et de ses résultats pécuniaires. Tout homme ayant dans les veines une goutte de sang artiste conviendrait sans doute que cette dernière considération, si agréable soit-elle à son heure, est la dernière qui compte. L'illustre auteur de Peter Pan, Sir James Barry, rendit hommage à Sherlock Holmes par la joyeuse parodie qu'il en fit et qui, de sa part, fut un geste de résignation spirituelle après l'insuccès d'un opéra comique dont nous avions écrit ensemble le livret. Malgré nos efforts conjoints, l'œuvre était tombée à plat. C'est là-dessus qu'il m'envoya la parodie en question, écrite sur la garde d'un de ses livres. La voici. L'aventure des deux collaborateurs. En mettant fin aux aventures de mon ami Sherlock Holmes, je me suis souvenu, peut-être involontairement, que jamais, sauf dans la circonstance où, comme on va le voir, s'acheva singulièrement sa carrière, il ne consentit à s'employer pour la solution d'un mystère concernant des gens dont la plume est le gagne-pain. « Je ne suis pas, disait-il, très difficile sur la qualité des gens avec qui j'entre en rapport d'affaires, mais quand il s'agit de littérateurs, bonsoir. » Nous étions dans notre appartement de Baker Street un soir. Assis à la table du milieu, j'écrivais cette aventure de l'homme qui a perdu sa jambe de liège, cause de tant de tracas pour la Société Royale et pour les autres corps savants de l'Europe. Holmes, en manière de jeu, se faisait la main au revolver. C'était sa coutume, les soirs d'été, de tirer ainsi à l'entour de ma tête des balles qui, me rasant la figure, allaient inscrire mon profil sur la muraille opposée. Et j'aurais donné une idée relative de son adresse en disant que pour la plupart, ces images étaient d'une admirable ressemblance. Comme je regardais fortuitement par la fenêtre, je vis deux gentlemen descendre d'un pas pressé Baker Street. « Les connaissez-vous ? » lui demandai-je. Aussitôt, il alluma sa pipe, s'assit et se tournant sur lui-même en forme de 8. « Ce sont, me répliqua-t-il, les deux auteurs d'un opéra comique qui n'a pas été un triomphe. » L'étonnement me fit bondir au plafond. Alors il m'expliqua. « Mon cher Watson, ces deux individus exercent évidemment un métier assez bas. Vous-même deviez savoir le lire sur leur visage. Les petits morceaux de papier bleu dont ils sèment rageusement leur parcours sont des coupeurs de journaux de l'agence Durant. Ils en ont sur eux des centaines. Voyez comme elles gonflent leurs poches. Et ils ne les fouleraient pas aux pieds si elles leur étaient agréables. » Je bondis de réchef au plafond, déjà fort endommagé par des assauts semblables. « Mirobolant ! » m'écriai-je, mais ce peuvent être aussi de simples gens de lettres. « Non, » me répondit Holmes, « de simples gens de lettres ne reçoivent pas plus d'une coupure par semaine. Il n'y a pour en recevoir des centaines que les auteurs dramatiques, les acteurs et les assassins. Alors ce peuvent être des acteurs. Des acteurs iraient en voiture. Que vous suggèrent encore ces gens? Bien des choses. À la boue qui couvre ses bottines, je vois que l'un d'eux vient de South Norwood. L'autre est, sans nul doute, un écrivain écossais. Comment le savez-vous? Il a dans la poche un livre qui s'appelle, le titre dépasse, « Outlish Something ». Qui voulez-vous qui promène un tel livre, sinon un écrivain écossais? Je convins que c'était probable. Visiblement, les deux hommes, si l'on peut ainsi parler, cherchaient notre demeure. J'ai souvent dit que notre ami Holmes s'abandonnait rarement à l'émotion, mais cette fois, il blêmit. Son visage prit un air étrange. Il semblait chanter victoire. « Watson, me dit-il, voilà des années que ce gros gaillard-là s'attribue le mérite de mes plus notables prouesses. Enfin, enfin, je le tiens. » Je rebondis au plafond. Quand j'en revins, les deux étrangers étaient dans la chambre. « Je constate, messieurs, dit Sherlock Holmes, que vous avez aujourd'hui un souci extraordinaire de la mode. » Le plus élégant des deux visiteurs lui demanda à quoi elle reconnaissait cela, l'autre se contenta de froncer les sourcils. « Vous oubliez que vous portez une bague au quatrième doigt, » répondit Holmes d'un ton calme. J'allais regagner le plafond, la grosse brute s'interposa. « Bon pour le public, Holmes, dit-il, ce genre de blague. Inutile de nous la faire. Vous, Watson, s'il vous prend encore fantaisie de vous envoler, je me charge de vous retenir à votre place. » Ici, j'observai un curieux phénomène. Mon ami Holmes parut rentrer en lui-même. Il rapetissa soudain devant moi. Je levai au plafond des yeux d'envie, mais je n'osais quitter le sol. « Trêve de préambule, reprit le gros homme, venons-en à l'objet de notre visite. Je voudrais savoir pourquoi. Permettez, dit Holmes, avec un peu de son intrépidité habituelle. Vous voudriez savoir pourquoi le public ne va pas à votre opéra? En effet, dit son interlocuteur d'un air ironique, vous avez dû voir ça à nos boutons de chemise? Plus gravement, il ajouta, et comme il ne peut y avoir pour vous deux façons d'éclaircir le mystère, je viens vous prier d'assister à toute une représentation de la pièce. J'eus une minute d'angoisse, et je frémis, songeant que si Holmes acceptait l'invitation, j'étais tenu de l'accompagner. Mais mon ami avait un cœur d'or. « Jamais, » s'écria-t-il farouche, « je suis prêt à faire pour vous tout ce que vous voudrez sauf cela. Votre vie en dépend, » dit le gros homme d'une voix menaçante. « Plutôt m'évaporer dans les airs, » riposta Holmes, en prenant fièrement un autre siège. « Mais je puis fort bien vous dire, sans aller voir votre pièce, pourquoi le public n'y va pas. « Eh bien, répondit Holmes, imperturbable, c'est parce qu'il préfère s'en abstenir. » Un silence de mort suivit cette révélation. Les deux hommes considéraient avec une sorte d'épouvante ébahie l'homme qui venait de déchiffrer si merveilleusement l'énigme. Alors, tirant leur couteau, mais Holmes s'effaçait. Bientôt il n'en resta plus qu'une spirale de fumée tournoyant lentement dans l'espace. Les derniers mots des grands hommes méritent souvent qu'on les retienne. Voici quels furent les derniers mots de Sherlock Holmes. « Fou, fou que vous êtes! Je vous ai pendant des années entretenu dans le luxe. Grâce à moi, vous avez pu vous offrir sans compter des courses en fiacre, ce qu'un auteur n'avait jamais pu faire avant vous. Désormais, vous n'irez plus qu'en omnibus. » La brute, effarée, s'écroula sur un siège. L'autre écrivain n'avait pas bougé d'un cheveu. Pour A. Conan Doyle, son ami, J. M. Barrie. Cette parodie, la meilleure qu'inspirait Sherlock Holmes, atteste non seulement l'esprit de Barry, mais la grâce de son entourage, car il l'écrivit sous le coup de notre échec, à l'heure où la pensée nous en était cuisante. Il n'y a rien de plus lamentable, en effet, qu'un insuccès de théâtre, car on sait combien de gens qui avaient misé sur vous s'en trouvent atteints. Ce fut, je m'en flatte, le seul que je connus, et Barry pareillement. Pendant que je suis sur ce chapitre, je dois dire que pas une des représentations qu'on a faites de Holmes, pas un des portraits qu'on en a dessinés ne ressemble à ma conception première du personnage. Je le voyais très grand, d'une taille dépassant 6 pieds, mais d'une minceur qui l'allongeait encore, et je dis dans mon étude en rouge. Tel que je l'imaginais, il avait une figure en lame de couteau, un grand nez en bec de corbin, et deux petits yeux très rapprochés. Cependant, l'artiste chargé de la personnification originale, ce pauvre Sidney Paget, mort si prématurément, avait un jeune frère du nom de Walter qui lui servait de modèle. La beauté de Walter se substitua à la laideur plus énergique de Sherlock, et ce fut peut-être tout aussi bien du point de vue de mes lectrices. Le théâtre n'a fait que se conformer au type créé par l'illustrateur. le cinéma n'était pas encore inventé au temps où paraissaient mes histoires. Quand, plus tard, une compagnie française m'offrit une petite somme pour le droit de les transporter à l'écran, je crus avoir découvert un trésor et fus trop heureux d'accepter. Je dus ensuite les racheter à un prix 10 fois supérieur, de sorte que cette affaire fut pour moi un désastre. Elle a été reprise par la compagnie Stoll, avec Hayley Lockwood dans le rôle de Holmes, et le mérite de la production justifie l'importance des frais qu'elle occasionna. Depuis, Norwood a joué le rôle sur une scène, à la grande satisfaction du public de Londres. Il possède cette qualité rare, qui n'a d'autre nom que le charme, et qui fait qu'on ne peut détourner ses yeux de l'acteur alors même qu'il ne fait pas un geste. L'expression méditative de ses yeux tient constamment le public en suspens, et dans l'art du déguisement, il n'a pas son pareil. Je n'adressais au film qu'un reproche, c'est d'introduire dans la vie de Holmes l'auto, le téléphone, tout un luxe d'acquisition dont on avait pu rêver un homme de l'époque victorienne. Que de fois l'on m'a demandé si je connaissais la fin d'une histoire de Sherlock Holmes avant de me mettre à l'écrire. Évidemment, je la connais. Comment se diriger quand on ignore où l'on va? L'important, c'est avant tout d'avoir une idée maîtresse. En possession de cette idée, il reste à la masquer en attirant l'attention sur tout ce qui peut appeler une explication indifférente. Holmes, lui, ne se laisse pas égarer par des apparences. Il arrive plus ou moins dramatiquement à la vérité par une suite d'étapes qu'il peut retracer et justifier. Il manifeste ses moyens par l'usage de ce que les Sud-Américains nomment aujourd'hui des Sherlock Holmitos, autrement dit, par d'adroites petites déductions qui souvent n'ont aucun rapport avec l'affaire, mais qui préviennent favorablement le lecteur. Il obtient des effets analogues en faisant, à brûle-pourpoint, allusion à d'autres cas. Dieu sait combien de titres j'ai jetés en passant, et combien de lecteurs m'ont sollicité de satisfaire leur curiosité touchant Rigoletto et son abominable femme, ou le capitaine fatigué, ou la curieuse aventure de la famille Patterson dans l'île du Fa. Une ou deux fois, comme dans la seconde tâche, que je tiens pour l'un de mes contes les mieux réussis, je me suis servi d'un titre plusieurs années avant d'écrire le récit correspondant. Certaines histoires ont le don de soulever des questions qui me reviennent périodiquement de tous les coins du monde. Dans l'école du prieuré, Holmes fait une de ces remarques incidentes qui lui sont familières. Il prétend qu'à regarder les traces d'une bicyclette sur le sol d'une lande marécageuse, on peut dire dans quel sens la bicyclette se déplaçait. J'eus à subir là-dessus tant de remontrances, allant de la pitié à la colère, que j'en appelais au témoignage de ma bicyclette. Il m'avait semblé que la façon dont les traces de la roue arrière se superposaient à celles de la roue avant, quand ma machine ne bat pas tout droit, devait indiquer la direction suivie. Je constatais que j'avais tort, et mes correspondants raison, car les traces des roues se superposaient de la même manière, quelque direction que suivit la bicyclette. La vérité d'ailleurs était tout bonnement que sur le sol accidenté d'une lande, les roues laissent une empreinte plus profonde à la montée, plus superficielle à la descente, ce qui justifiait en définitive la remarque de Holmes. Il m'est arrivé de courir des risques pour m'être avancé à l'étourdi en pays inconnu. Ainsi, le peu d'intérêt qu'ont toujours eu pour moi les courses de chevaux ne m'a pas empêché d'écrire Silver Blaze, où le mystère repose sur les lois de l'entraînement et de la course. L'histoire est parfaite. Holmes s'y montre dans tout son avantage, mais mon ignorance crie vers le ciel. Je lus dans un journal de sport une excellente et fort sévère critique de ma nouvelle. L'auteur, sachant lui de quoi il parlait, montrait les peines qu'auraient encourues mes personnages s'ils avaient agi comme je les faisais agir. Une moitié fut allée en prison, l'autre eût été à jamais banni du turf. Mais en aucun temps, je ne me suis beaucoup inquiété des détails, et il peut s'en trouver qu'ils soient d'importance capitale. La voie ferrée n'est pas double à cet endroit, m'écrivit un jour, tout éploré, le directeur d'une publication. J'en pose une deuxième, lui répondis-je. Une grande exactitude est, je l'accorde, de rigueur en certains cas. Je ne voudrais pas manquer de gratitude envers Holmes, qui a été pour moi un bon ami durant des années. Si j'ai failli par instant me lasser de lui, c'est que son caractère n'admet pas de nuances. Holmes n'est qu'une machine à calculer. Tout ce qui s'y ajoute ne sert qu'affaiblir les faits. La diversité des histoires dépend uniquement de l'invention romanesque et de la façon dont on sert l'idée. À l'égard de Watson, qui dans l'espace de 7 volumes n'a pas un trait d'humour, pas une velléité de plaisanterie, je dirais que pour créer un personnage vrai, il faut tout sacrifier à l'unité et ne pas commettre la faute que Goldsmith reproche à Johnson de faire parler les petits poissons comme des baleines. Je ne crois pas avoir jamais bien compris à quel point Holmes était, pour le lecteur naïf, une personne réelle et vivante, comme le jour où me conta la plaisante histoire de ces écoliers français qui visitant Londres en char à banc, et priés de dire où ils voulaient qu'on les menât tout d'abord, exprimèrent le désir unanime de voir la maison de Holmes dans Baker Street. Bien d'autres gens m'ont, au surplus, manifesté la curiosité de savoir où elle était située. Je n'en déciderai pas, et pour cause. Périodiquement reviennent dans les journaux, avec la régularité d'une comète, certaines histoires de Sherlock Holmes apocryphes, je n'ai pas besoin de le dire. L'une est celle de ce cocher de fiacre qui, à Paris, pendant qu'il me mène à mon hôtel, s'écrie tout à coup en me regardant au fond des yeux « Docteur Doyle, je vois que vous êtes allé récemment à Constantinople. J'ai aussi quelques raisons de croire que vous avez passé à Budapest, et je gagerais que vous avez dû, à un moment donné, vous trouver très près de Milan. Merveilleux, lui dis-je, 5 francs si vous me donnez le secret de votre découverte. Eh bien, j'ai lu les étiquettes de vos bagages, me répond l'astucieux Collignon. Il y a aussi la dame qui va consulter Sherlock. Je suis très intrigué, monsieur. En une semaine, j'ai perdu une trompe d'auto, une brosse, une boîte contenant des balles de golf et un tire-botte. Rien de plus simple, madame, répond Sherlock. Il est clair que votre voisin a une chèvre. La troisième est celle de la manière dont Sherlock, entrant au paradis, reconnaît tout de suite Adam par la vertu de ses facultés observatrices. Mais qu'on me dispense du détail, il est un peu trop anatomique. Tout écrivain, j'imagine, reçoit beaucoup de lettres. Ce fut mon cas. Un grand nombre m'arrivait de Russie. Je ne pouvais que tenir pour lue celles qui étaient en russe. Quant à celles qui étaient en anglais, elles comptent parmi les plus curieuses de ma collection. Une jeune dame commençait tous ses épîtres par la formule « Mon bon seigneur ». Une autre, sous des dehors de simplicité, cachait une belle astuce. Elle m'écrivit de Varsovie pour me dire que malade et alitée depuis 2 ans, elle n'avait trouvé que dans mes récits, etc. Émue d'un si flatteur témoignage, je fis aussitôt un paquet de plusieurs de mes œuvres, préalablement dédicacées, et je m'apprêtais à compléter la collection de mon invalide quand, par hasard, je rencontrai le jour même un de mes confrères à qui je narrai ce touchant incident. Il me répondit par un sourire narquois, en tirant de sa poche une lettre où ma correspondante lui disait, en termes identiques, que durant 2 années de maladie, elle n'avait trouvé que dans ses récits, etc. J'ignore combien de lettres semblables la dame avait écrites, mais pour peu qu'elle eût étendu sa correspondance à plusieurs pays, elle avait dû se constituer une intéressante bibliothèque. Je parlais tantôt de cette jeune russe qui, lorsqu'elle m'écrivait, me décernait couramment le titre de mon bon seigneur. Dans un genre analogue, j'ai vu quelque chose de plus étrange encore en Angleterre. Peu de temps après que j'eus été fait chevalier, je reçus d'un fournisseur une lettre d'affaires qui n'avait rien que de correct, sauf qu'elle était adressée à Sir Sherlock Holmes. J'admets la plaisanterie autant que personne au monde, mais celle-là me parut fort déplacée, et j'y répondis de façon assez vive. Là-dessus, je vis se présenter à mon hôtel un employé de commerce qui, de l'air le plus contrit, m'exprima son chagrin de l'incident, tout en ne cessant pas de protester qu'il avait agi de bonne foi. « Mais qu'entendez-vous par bonne foi ?» lui demandai-je. « Eh bien, sœur, mes camarades m'ont dit que vous aviez reçu un titre nobiliaire, que dans ce cas-là c'est l'usage de changer de nom, et qu'en conséquence vous aviez pris celui de Sherlock Holmes. » Inutile de dire que ma mauvaise humeur n'y résista pas. Je ris d'aussi bon cœur que les camarades du pauvre garçon devaient le faire sous cap. Parmi les problèmes que j'ai eu à résoudre, un très petit nombre offrait seul quelque analogie avec ceux que j'ai imaginés pour illustrer les raisonnements de Holmes. J'en pourrais citer un dans lequel je copiais avec un plein succès la méthode de mon personnage. Voici le cas. Un individu avait disparu. On savait qu'il avait touché dans une banque la totalité de son crédit et qu'il portait sur lui cette somme s'élevant à 40 livres. On craignit un assassinat ayant le vol pour mobile. Sa présence a été signalée pour la dernière fois dans un grand hôtel de Londres. Arrivé le matin, il avait assisté, le soir, à une représentation de music-hall. Il était rentré à l'hôtel vers 10 heures. Il avait quitté son habit, qu'on retrouva dans une chambre à côté. Depuis, on n'avait plus de ses nouvelles. Personne ne l'avait vu sortir de l'hôtel, mais un voyageur qui occupait l'appartement voisin déclara l'avoir entendu bouger durant la nuit. Une semaine était déjà passée quand on me consulta. La police n'avait découvert aucune trace de l'homme. Qu'était-il devenu ? Je fus mis au courant des faits par la famille, qui habitait la campagne. J'essayais d'examiner l'affaire avec les yeux de Holmes, et par le même courrier, je répondis que le disparu était, évidemment, soit à Glasgow, soit à Édimbourg. On sut plus tard qu'en effet, il avait gagné ces dernières villes, mais que, dans le courant de la semaine, il en était reparti pour une autre région de l'Écosse. Je devrais n'en pas dire davantage, car, comme l'a souvent montré le docteur Watson, une solution qu'on explique est un mystère qu'on gâte. Le lecteur n'a qu'à y réfléchir un instant. Possédant toutes les données que je possédais, il verra combien le problème est facile. Pour ceux toutefois qui n'ont pas de disposition à débrouiller les énigmes, voici point par point comment j'opérais. Mon seul avantage, c'était de connaître à fond la routine des hôtels de Londres, laquelle, je suppose, ressemble passablement à celle de tous les autres hôtels. Il importait d'abord de considérer les faits et de démêler le certain d'avec l'incertain. Tout dans les faits présentait un caractère de certitude, hormis la déclaration d'un voyageur qui prétendait avoir au cours de la nuit entendu bouger le disparu. Comment, dans un grand hôtel, aurait-il pu distinguer ce bruit d'entre les autres? Si donc son allégation gênait mes conclusions, je n'avais qu'à l'écarter. Ce qui était clair, c'était que le disparu avait voulu disparaître. Sans cela, pourquoi eût-il retiré tout ce qu'il avait d'argent disponible en banque? Il était sorti de l'hôtel pendant la nuit. Mais il y a un portier dans les hôtels, et la porte une fois fermée, on ne sort pas sans qu'il s'en aperçoive. La porte se ferme après le retour des théâtres, c'est-à-dire vers minuit. Donc notre homme n'avait pas attendu minuit pour sortir. En revenant du music-hall à 10 heures, il avait changé de vêtements et s'en était allé avec sa valise. Personne n'avait remarqué sa sortie, d'où j'inférais qu'il avait dû sortir à l'heure où le hall était plein de gens rentrant du théâtre, c'est-à-dire entre 11 heures et 11h30. Plus tard, même si la porte eût été ouverte, on n'eût pas manqué de le voir passer. Nous voilà déjà suffisamment avancés en terrain ferme. Reste maintenant à savoir pourquoi un homme désirant se cacher s'en était allé à pareille heure. S'il avait eu l'intention de se cacher à Londres, rien ne lui commandait de venir d'abord dans un hôtel, donc évidemment il avait un train à prendre. Mais un voyageur qu'un train dépose la nuit dans une petite gare de province risque fort de ne point passer inaperçu. Il peut compter qu'une fois sa disparition rendue publique et son signalement donné, il y aura toujours un employé du train ou un homme d'équipe pour se souvenir de lui. Il faut donc qu'il ait pour destination quelque grande ville où l'on arrive en plein jour, où tous les voyageurs descendent et où il se perdra dans la foule. Consultons l'horreur des chemins de fer. Quand nous aurons constaté que tous les grands express d'Édimbourg et de Glasgow partent vers minuit, nous serons au bout de nos recherches. Qu'avant son départ, notre voyageur eût abandonné son habit, c'était la preuve qu'il pensait adopter un genre de vie où les conventions mondaines n'auraient plus de place, et l'événement justifia cette déduction. Il arrive pourtant que ces méthodes semi-scientifiques soient trop laborieuses et ne vaillent pas, pour la rapidité des résultats, l'expérience du professionnel agissant à vue de nez. Loin de moi la pensée de me jeter des fleurs ou d'en couvrir M. Holmes. Je reconnais qu'un jour l'auberge de mon village, située à 2 pas de chez moi, ayant reçu la visite d'un cambrioleur, le constable local, sans l'aide d'aucune théorie, avait déjà mis la main sur le coupable quand je venais tout juste de découvrir que cet homme était gaucher et portait des souliers à clous. Les circonstances insolites ou dramatiques, qui dans la fiction motivent d'ordinaire le recours à Holmes, ne laissent pas de l'aider puissamment à bâtir ses déductions. Dans la réalité, il se peut que telle affaire se présente où ce qu'il y a d'effrayant échappe à toute prise. On m'a conté le fait suivant, arrivé en Amérique, et qui aura certainement constitué un terrible problème. Un gentleman ayant toujours mené une vie sans reproche sortait un dimanche après-midi pour faire un tour avec sa famille, quand il s'avisa tout à coup qu'il oubliait sa canne. Il rentra dans sa maison, dont la porte était encore ouverte, pendant que les siens l'attendaient au dehors. Non seulement on ne l'a jamais revu, mais jamais on n'a eu la moindre idée de ce qu'il avait pu devenir. C'est une des histoires vraies les plus étranges que je connaisse. En voici une autre dont je puis parler de bonne science, car j'en fus saisi par un grand éditeur de Londres. Il occupait dans sa maison, comme chef de service, un employé que nous appellerons, si vous le voulez bien, Musgrave. C'était un homme travailleur, assidu, et sans aucun trait bien saillant dans le caractère. Musgrave mourut, et plusieurs années s'écoulèrent. Un jour, ses patrons reçurent une lettre qu'on lui adressait par leur entremise. Elle portait le timbre d'une ville de l'Ouest canadien fréquentée par les touristes. Sur la face extérieure de l'enveloppe se lisait la mention « Film confidentiel », et dans un coin, ces mots dépourvus de sens « Report Sai ». On ne connaissait pas de parents au défunt. On ouvrit donc l'enveloppe, mais on n'y trouva que des feuilles blanches. Je dois ajouter que le pli était recommandé. L'éditeur, fort embarrassé, me l'envoya. Je soumis les feuillets blancs à la chaleur, j'usais de réactifs chimiques. En dernière analyse, tout ce que je pus dire, c'est que l'écriture de l'adresse semblait trahir une main de femme. Le fait demeurait et demeure un insoluble mystère. On s'explique mal comment une personne ayant à faire une communication si secrète à M. Musgrave eût ignoré qu'il fût mort depuis des années et pourquoi des feuillets absolument blancs auraient été confiés avec tant de précautions à la poste. Je me garderai d'omettre que, ne m'en rapportant pas moi-même pour l'expertise chimique, j'en avais chargé un spécialiste éprouvé. Cette agaçante affaire n'aboutit pour moi qu'à un mécompte. M. Sherlock Holmes a toujours attiré les mauvais plaisants, que deux cas fantaisistes et plus ou moins ingénieux l'ont invité à résoudre. Combien j'en ai reçu de cartes marquées de signes, et d'avertissements mystérieux, et de messages chiffrés, et de communications bizarres. On a peine à concevoir le mal que se donnent certaines gens pour le seul plaisir de la mystification. Un jour, comme j'entrais dans mon hall pour prendre part à un match de billard entre amateurs, on me remit un petit paquet qui avait été apporté pour moi. Je l'ouvris, et j'y trouvais un de ces morceaux de craie verte dont les joueurs de billard ont coutume de faire usage. Amusé par l'incident, je mis la craie dans la poche de mon gilet et m'en servis durant la partie. Je continuai de m'en servir par la suite, si bien qu'un jour, comme j'en frottais le procédé, elle craqua. Je m'aperçus que le morceau était creux et j'en retirai un bout de papier où l'on avait écrit ces mots « d'Arsène Lupin à Sherlock Holmes ». Que penser du cerveau d'un homme qui se donne tant de peine pour un tel résultat? Un des mystères proposés à Holmes était de l'ordre psychique, et par conséquent sortait de son domaine. Il s'agissait de faits très sérieux, plus ou moins vrais, ce que j'ignore, mais gravement affirmé par une dame qui signait de son nom et donnait son adresse. Cette personne, que je nommerai Madame Seagrave, avait reçu en cadeau une bague d'or mat, achetée d'occasion, et qui figurait un serpent. Elle la retirait toutes les nuits. Cependant, une nuit, elle dormit avec sa bague, et elle eut un rêve affreux, dans lequel elle se voyait luttant contre une bête furieuse qui lui serrait le bras entre ses dents. Au matin, quand elle se réveilla, la douleur persistait encore, et sur le bras paraissaient les empreintes de deux mâchoires. Ces empreintes n'entamaient pas la peau, elles offraient l'aspect de meurtrissures bleuâtres. À la mâchoire inférieure manquait une dent. « Je ne sais, disait ma correspondante, ce qui me fit concevoir la possibilité de quelque rapport entre la bague et le phénomène. Toujours est-il que je pris ce bijou en aversion et que je le laissai de côté pendant plusieurs mois. Pour abréger, la dame l'ayant remis à son doigt un jour qu'elle allait faire une visite, l'incident se renouvela et elle en prévint à jamais le retour en le jetant dans le fourneau de sa cuisine. Ce récit, que je crois sincère, n'a peut-être rien de surnaturel qu'en apparence. Il est notoire que sur certains sujets, une forte impression mentale produit un effet physique. Ainsi, un cauchemar dans lequel on se sent mordu peut parfaitement laisser la marque d'une morsure. Les annales médicales sont là qui attestent cette sorte de fait. Quand l'incident se produit une deuxième fois, c'est bien entendu par une suggestion inconsciente résultant de la première. Quoi qu'il en soit, voilà un très intéressant petit problème. Suit un petit dessin à la page 147 de l'édition signalée. Inutile de dire que les histoires de trésors cachés ne manquent pas dans le courrier de M. Holmes. Le petit dessin de cette page accompagnait l'exposé d'un cas parfaitement authentique. Un navire des Indes fit naufrage en 1782 sur la côte sud-africaine. Il portait de très grandes richesses et notamment, si je ne me trompe, l'ancienne couronne des rois de Delhi. Je serais plus jeune qu'il ne me déplairait pas d'y aller voir. On présume que l'équipage enfouit le trésor près de la côte et que les indications du dessin se réfèrent à son emplacement. Tous les navires des Indes, à cette époque, avaient leurs codes sémaphoriques particuliers. Les trois signes de gauche seraient les signaux d'un sémaphore à trois branches, et peut-être en retrouverait-on le sens en consultant les archives de l'Office des Indes. Le cercle de droite marquerait la direction du compas. En admettant que le demi-cercle plus large figure la courbe d'un récif ou d'un rocher, les chiffres qui le surmontent détermineraient l'emplacement du point X où se trouvait le trésor. Peut-être la direction serait-elle de 186 pieds par rapport aux 4 du demi-cercle. Le lieu où s'échoua le navire est dans un pays très désert. Je ne m'étonnerais pas que, tôt ou tard, quelqu'un entreprît très sérieusement d'en finir avec ce mystère.